Elle nous annonce ce matin
reprendre, et pour cette retraite, cette session, ce sera la dernière fois, le sujet de l'Église et de la guérison des malades. Je voudrais encore ajouter à ce que nous avons dit samedi une considération sur ce qui est vraiment alors la mission, ou si vous voulez, le ministère de l'Église. Le salut de l'homme est individuel. Individuel. On n'est pas sauvé à cause de, la parole nous le dit, n'est-ce pas, un tel, son frère, sa mère, ses parents, n'est-ce pas, ceux qui se lient à leurs parents pour suivre leurs opinions religieuses, par exemple, n'est-ce pas, sont, vous voyez, dans l'égarement. On n'est pas sauvé par un autre que par Christ, on est sauvé individuellement par Jésus-Christ. Il y a donc un salut individuel. Et cependant, il y a une volonté communautaire. Ah, il y a des choses qui font contraste dans l'Écriture, et il faut savoir les reconnaître. Il y a, de la part de Dieu, une très réelle et très constante volonté communautaire. Dieu se donne un peuple, pas un peuple dispersé, mais un peuple uni. Et il en découle, bien sûr, des conséquences concernant la recherche des grâces dont nous avons besoin, notamment de la grâce de la guérison divine. Le docteur Lambourne, dont j'ai déjà cité l'ouvrage précédemment, et cet ouvrage, je le rappelle, s'intitule « Christ et la santé », avec sous-titre « La mission de l'Église pour la guérison et le salut des hommes ». La mission de l'Église, c'est un docteur qui a fait ensuite, étant médecin, étant généraliste, ayant été d'ailleurs travaillé par l'Esprit de Dieu, car il sentait sur lui une très grave responsabilité à l'égard de ses malades, et il s'est mis à faire en Angleterre une licence de théologie. Eh bien, il constate dans son ouvrage que l'homme est un être essentiellement communautaire. Et il montre combien cette vie communautaire, vie en société, est l'un des traits de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de l'Ancienne Alliance. Dieu, en effet, j'acquiesce pleinement à cette constatation, Dieu se donne en effet une relation avec un peuple, il se forme un peuple. Et je rappelle ce que dit la Genèse, ce que dit Dieu dans la Genèse, « Je fais alliance avec toi et ta postérité de génération en génération, alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité, la postérité d'Abraham. » Le point de départ de l'œuvre de Dieu après le déluge, c'est Abraham. Dieu se choisit un homme, et il n'y en avait pas deux, nous dit un prophète. Il n'y avait que lui à choisir. Dieu a choisi le seul qui pouvait répondre à son attente pour l'accomplissement de ses desseins. Abraham est un point de départ. Il n'est pas un sauveur, personne ne l'est, en dehors de Christ, mais il est un point de départ. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il va être une projection de bénédiction sur sa postérité qui ne sera pas seulement sa descendance amorcera sa postérité, mais sa postérité envahira les nations, et sa postérité, elle sera élue, nommée en Isaac, son fils, le fils de la promesse. Voilà ce que nous savons. L'Église est la postérité d'Abraham. Nous notons aussi que par les actes d'Abraham, la destinée d'une descendance, alors là c'est le peuple d'Israël, la descendance d'Abraham, la destinée de ce peuple et celle plus lointaine, mais encore plus glorieuse, de cette postérité qui lui est promise, postérité nombreuse, est assurée par les actes de cet homme. Et alors il est tout de même intéressant de relire la Genèse, Genèse 22, 17 et 18. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis, c'est-à-dire elle dominera sur tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et pourtant les promesses, elles étaient déjà faites, elles avaient même été réitérées à Abraham, chaque fois d'ailleurs qu'Abraham faisait quelque chose qui plaisait à l'Éternel et manifestait sa foi, l'Éternel ne manquait pas de lui réitérer ses promesses. Mais elles n'étaient pas scellées. Elles n'étaient pas scellées. Elles le sont ici. Parce que tu as obéi, parce que tu m'as donné ton fils, ton unique, tu n'as pas hésité. Tu ne me l'as pas refusé, tu me l'as donné. Je pouvais te laisser abattre le couteau sur lui et le mettre sur l'autel. Le laisser brûler en holocauste. Tu ne me l'as pas refusé. À cause de cette obéissance, toutes les promesses s'accompliront. Donc, je répète bien que par les actes de foi, c'est en quoi Abraham est le père de la foi, les actes de foi de cet homme, nous voyons que la destinée glorieuse de toute sa postérité est assurée. C'est remarquable, n'est-ce pas, cela. Dieu bénira ensuite l'accroissement et la continuité de la communauté israélite qu'il s'est choisie, le peuple qu'il s'est donné. Moïse sera suscité par Dieu pour délivrer tout un peuple, et il n'a pas été choisi pour lui seul, pour son propre salut, pour son propre bonheur à lui seul, mais pour que s'accomplisse l'œuvre de Dieu face à Israël. Et aucun des grands auxiliaires de Dieu n'a été choisi pour lui-même. Lui, il sera sauvé. Il est dit à Daniel, toi, persévère jusqu'à la fin et tu seras sauvé. Mais il a un rôle, une mission qu'il n'est pas pour assurer son bonheur à lui. David n'est pas roi donné par Dieu pour assurer son propre bonheur, mais pour combattre. Et Salomon, son fils, à la deuxième moitié de son règne, s'est fourvoyé entièrement quand il a recherché, lui, la jouissance et son propre bonheur. Ce n'était pas pour cela. Et nous, chers amis, je vous le dis, Dieu ne nous fait pas ses témoins, il nous fait ses disciples pour notre salut personnel. Mais il nous fait ses témoins pour une œuvre qui est collective, pour une œuvre qui est extérieure. On est témoin du Seigneur Jésus, pas pour soi, pour souffrir. Ça, il faudrait peut-être le savoir. Parce que l'évangélisation, je le dis souvent, malheureusement, le message d'évangélisation, n'est-ce pas, ne doit pas être reçu par les chrétiens pour eux, pour s'adapter à leur situation, à leur vie. Le message d'évangélisation est donné pour les gens du dehors, qui n'ont pas encore entendu l'évangile ou qui viennent l'entendre dans les premières fois. Mais le message qui convient aux chrétiens, à ceux qui sont des disciples, et des témoins étant baptisés du Saint-Esprit, c'est un message différent. Il t'est dit, si tu souffres avec lui, tu règneras avec lui. On ne dit pas ça en évangélisation. C'est pour ça que je déplore un peu, n'est-ce pas, il faut que les chrétiens soient présents à leur réunion d'évangélisation pour apporter, pour aider, mais pas pour eux.
Il faudrait tout de même qu'on le comprenne, c'est pas pour eux, le message n'est pas pour eux. Viens au Seigneur Jésus, n'est-ce pas tout ça? Ce n'est pas pour eux. Ils sont venus. On vient une fois. La rédemption peut jouer une fois, pas deux fois. Et il faut tout de même mettre ces choses-là au clair, n'est-ce pas? Et vous êtes, si vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, de disciples que vous étiez, vous êtes devenus des témoins. Et si vous êtes devenus des témoins, ce n'est pas pour vous. Vous étiez disciples pour votre salut. Assurez votre salut. Bon, mais vous êtes maintenant des témoins par le baptême du Saint-Esprit pour l'extérieur, pour souffrir, pour combattre le bon combat de la foi. Et vous êtes là engagés dans une œuvre d'ensemble. Dans une œuvre d'ensemble. Et non plus dans une œuvre personnelle. Votre personnalité est remise à Dieu. Votre destinée personnelle, ce n'est plus elle qui fait l'objet de votre recherche. Il faut sortir de cela. Regardez les autres comme ayant beaucoup plus d'intérêt, nous dit la parole, que vous-même. Votre intérêt, lui, il disparaît, il est confié à Dieu. Il est bien confié. Hein? Et il y a intérêt qui se reporte sur les autres. Ça, c'est à la base de la mission de l'Église pour la guérison des malades, je reprends le titre du docteur Lambeau, pour la guérison des malades, et c'est à la base de la mission de l'Église pour tout, n'est-ce pas ? Notamment pour la guérison des malades. La Pâque se célébrait en un jour pour toutes les familles d'Israël ensemble. C'est un événement communautaire. C'est un peuple qui a été délivré. L'œuvre d'un auxiliaire de Dieu, donc un roi, un prophète, un souverain sacrificateur, renferme en elle-même les moyens de bénédiction ou de châtiment, s'il s'agit d'un prophète particulièrement, les moyens de bénédiction ou de châtiment pour l'ensemble du peuple. L'œuvre d'un auxiliaire de Dieu est pour l'ensemble du peuple. Et voyez même des prophètes comme Jérémie, à certains moments, ils vont vraiment gémir, ils vont avoir des courts moments de découragement et dire au Seigneur, regarde dans quelle situation nous sommes. Jérémie le dit particulièrement, j'ai toute l'hostilité de ma famille, du peuple contre moi, j'ai rien fait pour ça, rien du tout, au contraire, moi je voudrais vivre en bonne harmonie avec tout le monde, mais tu mets ta fureur, toi, au Seigneur, tu mets ta fureur en moi, et je leur parle avec des mots qui sont cinglants, je leur parle durement de ta part, et c'est ta fureur qui est en moi, et alors je me fais des ennemis. Je me fais deux des ennemis, au point qu'il y a eu des complots qui se fomentaient contre ce prophète dans sa propre famille pour le tuer. Alors, il faut, n'est-ce pas, penser à cela. Et d'autre part, nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau aussi, mais c'est plus apparent dans l'Ancien, que la responsabilité que Dieu retient est une responsabilité collective. Une responsabilité collective. Oui, une responsabilité collective. Voyez, par exemple, je rappelle cet incident très grave de l'ange qui pointait son épée sur Jérusalem du temps du roi David. Et le roi David, lui, il avait commis aux yeux de Dieu une erreur qui était grave. Bien sûr, le peuple avait d'autres responsabilités qui venaient de plus loin. Mais le roi, là, avait commis une erreur, une faute de vouloir un recensement du peuple, s'assurer qu'il avait autour de lui un peuple puissant, nombreux. Au lieu de s'en rapporter uniquement à son Dieu, n'est-ce pas ? Là, il y a eu une faiblesse dans la vie de David. Et Dieu dit à David, eh bien maintenant, choisis. Voici trois châtiments, choisis celui que tu veux. Et ces châtiments, ils portaient sur le peuple. Ils portaient sur le peuple tout entier et non pas sur David. David aurait préféré que ce soit lui seul qui soit châtié, mais non. Tout le peuple, n'est-ce pas, la responsabilité que Dieu retient, nous voyons dans bien d'autres occasions, est une responsabilité collective. Ce qui ne détruit pas le fait que la relation personnelle d'une âme avec Dieu soit apparente et elle aussi maintenue. Par exemple, Ézéchiel nous dira « Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël ». Il y a là donc une responsabilité personnelle, mais aussi une responsabilité collective. Comment les choses vont-elles interférer, ces deux responsabilités? Ah, ça, c'est la grande science de Dieu. Nous ne pouvons pas nous immiscer en cela, nous ne pouvons que constater. Le Seigneur Jésus nous a lui-même montré cette responsabilité collective. Voyez par exemple dans Matthieu 10 et verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voilà une responsabilité collective, cette ville-là. Dans le chapitre suivant, chapitre 11, et au verset 20, nous lisons « Alors il se mit à faire des reproches aux villes, dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Est-ce à dire que, d'une façon absolument uniforme, tous les habitants de ces villes vont descendre au séjour des morts? Mais ce n'est pas cela qui est dit, mais il y a une responsabilité collective qui va entraîner une plus ou moins grande sévérité dans le jugement que Dieu prononcera. Vous me direz, mais pourquoi cela? Eh bien, je vous répondrai qu'il y a entre les hommes, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, une solidarité qui joue, je répète, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, une solidarité. On a souvent dit que les hommes étaient des moutons de Panurge. Ça se voit à tous les âges, ça se voit à notre époque, n'est-ce pas? Il y a une communication de l'un à l'autre, aussi bien pour le mauvais que pour le meilleur. C'est peut-être cela qui peut expliquer cette responsabilité collective, mais elle obtient une explication supérieure encore en ce que Dieu veut un peuple, veut une humanité. Et il aboutira à une humanité unie. Il veut, par conséquent, un ensemble communautaire. On ne peut pas manquer d'être frappé par le lien entre les hommes. Ce lien qui a pour point de départ et pour base la procréation. En somme, tous les hommes sont la famille d'Adam. Nous sommes tous de la même famille. La famille d'Adam et ceux qui ont fait de l'anthropologie, des savants, sociologues ou plutôt des anthropologues, ont pu dire dans des ouvrages que maintenant on peut affirmer que l'humanité n'est qu'une seule race. Cela, je l'ai relevé dans mon ouvrage « Au-delà du temps », il y a déjà plusieurs années, une seule race. Il n'y a pas plusieurs races, il n'y a pas la race jaune, la race noire, la race blanche, etc. Et il y a une seule race. Évidemment, il s'est produit des variétés, n'est-ce pas, une seule espèce humaine, si vous voulez, avec des variétés. Mais race dans le sens d'espèce, il n'y en a qu'une, absolument qu'une. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, nous dit l'Épître aux Romains. Par un seul homme. Voyez la solidarité qui a joué. Terrible cette solidarité. Par un seul homme, car tous ont péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et nous voyons dans le sens de la reconstruction, dans le sens de l'établissement du royaume de Dieu, du salut des hommes, nous voyons apparaître dans la pensée de Christ un désir communautaire très net, et ce désir communautaire, nous le trouvons par exemple, dans cette parole, « Je bâtirai mon Église ». Mon Église, et mon Église, c'est un édifice. Mon Église, c'est un ensemble harmonieux. « Je bâtirai mon Église ». Et puis, nous le trouvons aussi dans le sermon sur la montagne, au chapitre 5 de Matthieu. Nous avons évidemment des choses qui intéresse isolément certains hommes qui adoptent l'attitude de cœur qui convient. Mais nous avons aussi là une pensée de communauté. Lorsque, par exemple, il est dit « heureux les débonnaires ». Les débonnaires, ce sont les doux, ceux qui emploient la douceur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils ont faim et soif de la justice. La justice, c'est pas pour eux-mêmes seulement. Quand on a faim et soif de la justice, c'est qu'on voit une masse humaine et qu'on voit l'injustice y régner, y faire ses ravages. Alors, on désire la justice sur une masse, sur un ensemble. Il y a donc là une pensée, vous le voyez, communautaire. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les miséricordieux, c'est pas pour eux, c'est pour les autres. On est miséricordieux pour les autres, on ne peut pas être miséricordieux pour soi. Là, on ne peut que s'apitoyer sur soi, mais on est miséricordieux pour les autres. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ça c'est une disposition de cœur qui est plutôt personnelle. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voyez-vous, ceux qui procurent, à qui procurent-ils la paix? Aux autres, autour de lui, autour d'eux, à leur entourage, ils procurent la paix. Notons bien cela que nous devons être, nous, disciples du Seigneur, ceux qui procurent la paix en tout temps, en toute occasion, petit ou grand, et non pas le désordre, et non pas le trouble. Chers amis, comme ces choses doivent s'inscrire sur les tables de nos cœurs. Procurez la paix, et attention à la langue, parce qu'il y a quelquefois un venin, comme dit l'Écriture, qui sort de là. Alors attention, n'est-ce pas, de ne procurer que la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, pour la justice qui intéresse toujours des masses. Enfin, nous voyons, n'est-ce pas, apparaître toujours l'idée d'une masse, d'une communauté. Et puis alors, dans ce même sermon sur la montagne, le Seigneur nous dira, Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. D'abord sois réconcilié avec ton frère. Et ton frère peut être plusieurs. Tu peux avoir plusieurs frères avec qui tu as besoin d'être en accord. Accorde-toi promptement, même si c'est ton adversaire, avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Voyez comme il faut absolument qu'il y ait un esprit communautaire, par un accord, par une paix, par une justice qui règne et que l'on fait régner, par une miséricorde qui se répand. Communautaire. Oh, chers amis, mais ces choses doivent être clamées dans notre Église aujourd'hui. Elles font défaut, elles sont en échec. N'aie pas peur de vous le dire. Quand je vois quelque part, n'est-ce pas, où que l'on me montre, que un pasteur me dit, bah, il y a tel et tel incident entre un tel et un tel, malheureusement, c'est à déplorer, il y a ceci, il y a cela. Je vous assure, ça me fait une peine considérable. Parce que je dis, comment est-il possible que les chrétiens ne surmontent pas cela pour vivre dans la paix, pour être miséricordieux, pour s'accorder avec leurs frères, même si leur frère a tort? Il ne s'agit pas ici, n'est-ce pas, d'un frère vis-à-vis duquel on a toutes les raisons. Si ton frère a quelque chose contre toi, même que ce soit injustifié, va t'accorder avec lui, même s'il est ton adversaire. On a oublié ces choses-là. Et voyez, n'est-ce pas, la directive d'un corps est là, la directive d'un corps. Un corps uni, par conséquent, une idée communautaire. Alors, ce qui couronne le tout, c'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, et pour, à mes yeux, et je pense que à vos yeux aussi, c'est un véritable couronnement, en effet. Jean 13, 34 et 35, ce sont les dernières instructions du Seigneur, les instructions de la fin de son ministère, elles sont toutes empreintes de la consigne d'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Du même amour que j'ai eu pour vous. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, c'est-à-dire qu'ensemble, vous formez l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Que vous êtes le corps de Christ, et que je suis révélé, Jésus le précisera un peu plus loin dans le chapitre 17, je serai révélé comme l'envoyé de Dieu dans une communauté où tous les membres s'aiment les uns les autres. Alors je serai révélé comme l'envoyé de Dieu, comme le Christ. Car dans l'idée d'envoyé, il y a toujours l'idée de loin, loin de Dieu. Ah, mes amis, mais c'est d'une importance capitale, cela. Nous traitons actuellement de la guérison, la guérison des malades qui entre dans la mission de l'Église. Mais nous sommes, vous voyez, obligés de traiter de ces choses, n'est-ce pas? Parce que la guérison des malades se trouvera en échec si l'amour est en échec. Ça, c'est pas douteux. Dans un milieu où il n'y aura pas cette unité, cet amour, comment voulez-vous que la bénédiction de Dieu soit abondante? Comment voulez-vous qu'elle relève les malades? C'est une grâce, et c'est une grâce qui est précisément de celles qui se voient et qui sont immédiatement sensibles. Nous avons eu ici des personnes soulagées de leurs maux. Elles ont pu rendre témoignage et gloire à Dieu. Ça se voit, ça se sait immédiatement. C'est pourquoi c'est une grâce. que le Seigneur Dieu va subordonner à l'amour des membres de la communauté les uns pour les autres. Il y a un corps de Christ. Alors là, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui est absolument péremptoire, ça, il n'y a pas besoin d'autres démonstrations. L'Église forme un corps. Il est, bien sûr, l'humanité se trouve alors scindée en deux fractions, pas trois ni quatre, deux fractions. Le gros de l'humanité qui s'appelle le monde, et qui est le théâtre où s'exercent toutes les puissances des ténèbres, et où le diable est maître, et puis l'autre fraction, qui est un petit troupeau, à chaque génération, un petit troupeau, mais qui formera plus tard un grand ensemble, un vaste ensemble, c'est l'humanité nouvelle. Elle prend nom de corps de Christ, surtout sur la terre, maintenant. Et relisons ce que nous dit Paul dans la première aux Corinthiens à ce sujet, chapitre 12 et verset 12. Car comme le corps est un, le corps humain est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. C'est-à-dire, ainsi en est-il de l'Église, qui est le corps de Christ. Et ici, Paul appelle l'Église tout simplement Christ. Le beau nom de Christ est donné à l'Église tout entière. Il en est la tête, elle en est le corps. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, cet enseignement merveilleux, magnifique, inspiré du Saint-Esprit, un corps. Un. Et au verset 26, « Et si un membre souffre, par maladie notamment, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ensemble, vous formez un corps. S'il y a un membre qui souffre, alors les autres partagent sa souffrance. Et si nous regardons dans Romains 12, le même appui apporté à cette doctrine excellente et magnifique du corps de Christ, Romains 12, versets 4 et 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, bon ça c'est le corps humain, nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, la main, le pied, l'œil, n'est-ce pas, membre ou organe. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, dans l'Église, veut dire Paul, nous qui sommes plusieurs dans l'Église, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Je crois qu'on ne peut pas exprimer d'une façon plus vraiment flagrante l'idée communautaire. Et l'idée communautaire avec précisément les répercussions de ce qui se produit sur une partie du corps sur l'autre, n'est-ce pas ? Répercussion, c'est un corps, n'est-ce pas ? Et si nous envisageons l'Église ainsi, certainement, elle va se replacer elle-même dans tout son ministère, et notamment le ministère de la guérison. L'Église, corps de Christ, est l'humanité nouvelle, qui se rassemble par le puissant lien de l'amour, et la volonté de Dieu est qu'elle soit unie. La volonté de Dieu est que ce corps soit uni. C'est pourquoi Éphésiens 4 nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, non pas charité, mais avec amour, agapé, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alors, on pourrait dire un mot maintenant de ce à quoi Dieu tend en voulant que le peuple sauvé, le peuple nouvellement né, peuple d'Église, forme un corps uni, un corps dont les membres sont solidaires les uns des autres. À quoi cela tend-il? Eh bien, je vais vous le dire. Cela tend à la perfection qui attend, qui est là, qui est préparée, vers laquelle, perfection vers laquelle, Dieu entraîne le peuple de l'Église, l'humanité nouvelle, vers la perfection. La perfection, elle, ne peut pas se concevoir dans la division. Ne peut pas se concevoir. L'amour est la perfection, l'amour est l'unité, l'esprit est unité, la perfection est une. S'il y avait deux perfections supposées, faisons un peu de philosophie peut-être, s'il y avait deux perfections, deux états de perfection, eh bien, ils seraient comparables l'un à l'autre. Il faudrait les comparer. S'ils étaient exactement semblables, cela ne ferait qu'une perfection. Il n'y en aurait qu'une. Et s'ils étaient dissemblables, c'est que ni l'un ni l'autre état ne serait la perfection. Parce que la perfection n'est rivalisée par rien. Elle est le sommet. Elle est l'état optimum auquel les choses puissent être placées, l'état absolu que Dieu seul peut établir. Et il entraîne le peuple de Dieu vers la perfection et par conséquent, il rassemble, il unit, il fait ce travail maintenant dans l'Église. Et alors, pour en revenir à notre sujet, la guérison, Dieu, qu'a-t-il voulu en inscrivant la guérison des corps dans le programme de l'Évangile, dans le programme de la rédemption, car elle appartient à la rédemption. Il a voulu lui donner une signification prophétique. Il a voulu qu'elle annonce le royaume de Dieu. Et c'est bien cela que nous voyons, n'est-ce pas, en suivant les Évangiles, le déroulement du ministère du Seigneur Jésus. Nous voyons partout que le Seigneur Jésus guérit, et cela pour montrer que le royaume de Dieu s'est approché, montrer que le doigt de Dieu est là. Le doigt de Dieu est là. Ce qu'il fait, les miracles qu'il accomplit, c'est par le doigt de Dieu. Et le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il est là, le royaume de Dieu. Il vient et vous envoyez les signes, les manifestations. Et par conséquent, la guérison est quelque chose de constant. Ce n'est pas seulement pour soulager tel ou tel membre de l'Église de ses souffrances physiques ou peut-être psychiques, mais c'est au-dessus de tout pour apporter dans l'Église le grand signe prophétique qui montre que le royaume de Dieu est là, est au milieu de vous. Alors, chers amis, vous pensez, si c'est important, il faut revoir les choses sous cet angle-là, dans l'Écriture. Alors, nous verrons que ce désir communautaire va se manifester aussi à l'échelon local, à l'échelon de la localité, de la ville. Il y aura dans la ville un rassemblement chrétien, un seul rassemblement avec peut-être plusieurs points de réunion. Enfin, ce n'est pas le point de réunion qui est nécessairement unique, c'est le rassemblement qui est unique, comme dans, par exemple, Acte 11. Eh bien, dans la ville d'Antioche, qui avait à l'époque des Actes 500 000 habitants, et alors il y avait plusieurs lieux de réunion, 500 000 habitants, ça couvrait une grande surface, il y avait plusieurs lieux, et une seule église, et plusieurs lieux de réunion. Donc c'est le rassemblement local, dans la ville, qui est vu aussi comme devant présenter le même aspect que le corps de Christ tout entier. Il doit y avoir la même chose. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10 et au verset 25, il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Littéralement, c'est « N'abandonnons pas le rassemblement de nous. » Enfin, c'est-à-dire, selon une autre traduction plus proche du grec, « Ne désertez pas les assemblées comme certains en ont pris l'habitude. » Ne désertez pas les assemblées. Vous êtes dans une assemblée de telle ville, un rassemblement, ne l'abandonnez pas, ne le désertez pas, n'allez pas vous promener, n'allez pas, quand il y a un rassemblement, soyez là. Parce que le corps doit être là. Parce que les membres du corps doivent être là ensemble. Il ne doit pas y avoir de raison, quelle qu'elle soit, raison contingente, qui puisse empêcher cela, n'est-ce pas? Il faut que les membres de l'Église se rassemblent. Et puis, nous avons une invitation de l'Écriture à porter les fardeaux des uns des autres, à intercéder les uns pour les autres, porter les fardeaux, intercéder, ce qui montre que dans le corps, les membres qui vont constater, apprendre qu'il y a parmi eux certaines souffrances, certaines douleurs physiques, certaines maladies, eh bien tout le corps va se mettre, n'est-ce pas, à prendre ce fardeau, à le supporter dans la prière, à le porter à Dieu, n'est-ce pas? Quelle richesse, quelle force! Quelle force, mes amis, dans, je dis bien, un rassemblement uni, si le rassemblement est désuni, cela ne pourra pas être agréé de Dieu. Dans un rassemblement donc uni, n'est-ce pas, et vous voyez que là, par conséquent, la question communautaire, le lien de l'esprit qui unit tous les membres, c'est quelque chose qu'il faut considérer avant tout, parce que sans ça, la prière d'intercession n'a pas de force ni de valeur. Vous savez que le Seigneur Jésus a donné cet ordre, qui n'est pas seulement l'ordre donné à quelques-uns des disciples contemporains, mais l'ordre donné à toute l'Église. Prenons-le dans Luc 9, 2, Luc 9, 2, 9, 1 et 2, Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et le Seigneur voulait qu'il soit au moins deux par deux, pas un, deux par deux. Voilà la mission de l'Église qui est permanente, il n'y a absolument rien qui la modifie en cours au cours du temps, prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Guérissez les malades, ressuscitez les morts et dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. La prédication du royaume de Dieu est assortie, accompagnée de cela. Mais il y a là une action communautaire. Et cette action communautaire, nous la signalons, nous, assez souvent, dans nos citations. Il nous arrive souvent de citer cela, quand deux ou trois sont assemblés, dans mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais c'est bien de citer ça. Mais ce serait mieux d'en tenir compte, toujours, quand deux ou trois, ça veut dire même si le rassemblement est assez étroit, mais s'il y en a quatre, s'il y en a cinq, s'il y en a dix, s'il y en a vingt, s'il y en a trente, enfin le Seigneur ne demande pas mieux. Seulement, n'est-ce pas, il faut que, comme le dit le verset 19 dans le chapitre 18 de Matthieu, je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, deux s'accordent, s'accorder par le Saint-Esprit pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. il y aura plus de force. Le Père Céleste verra deux cœurs qui viennent dans l'union, dans l'unité du Saint-Esprit pour lui présenter ensemble la même intercession, la même prière. Alors, le Père est réjoui, il veut cette unité, il veut ce lien de l'Esprit, et il le veut à l'œuvre, notamment dans la prière. S'il en trouve trois, s'il en trouve quatre, s'il trouve toute une église qui est comme ça accordée pour demander la même chose, demander la guérison par exemple d'un de ses membres, il y a une force, n'est-ce pas, extraordinaire, et c'est là que s'exerce véritablement la mission de l'Église pour guérir les malades. Et la mission de l'Église ne va pas s'exercer par le moyen de ces gens qui, isolément, ayant pris décision d'eux-mêmes, ayant consulté la chair et le sang, et non pas le Saint-Esprit, ont institué une mission d'évangélisation tout seul. Ils se sont donné un nom. Bon, alors ils ont réuni de l'argent, pris des grands chapiteaux, ils s'en vont dans des villes, et puis alors, n'est-ce pas, ils se présentent, il y a le principal, celui l'initiateur, présente là comme un grand évangéliste, hein, et il fait tout. Et alors les gens viennent, il impose les mains, il prie pour eux, il prélève un peu leur argent, même beaucoup, n'est-ce pas, il a déjà fait d'ailleurs avant, n'est-ce pas, le rassemblement de l'argent avant de rassembler les personnes, et puis alors il est là, n'est-ce pas, et il impose les mains, s'il agit comme évangéliste, et encore je dis attention, une mission d'évangéliste ne part pas de rien, elle part de l'Église existante. Ça, chers amis, je suis formel. Et si il y a un évangéliste, il doit être envoyé par les Églises. Par conséquent, chers amis, pensez à ceci, tous ces initiateurs qui ont pignon sur rue même, et qui ont une raison sociale, et qui ont pas mal d'argent et de moyens, n'est-ce pas ? Et qui font ça par eux-mêmes, ces gens-là ne les suivaient pas. Ils ne sont pas partis de l'Église. Ils ne sont pas envoyés par l'Église. Ils se sont envoyés eux-mêmes. Mais ce que je relève, n'est-ce pas, en admettant que quelqu'un soit un évangéliste et ait reçu de Dieu un ministère, en général d'ailleurs ils ont pu recevoir quelque chose, cela se voit, n'est-ce pas, à l'origine, mais ils l'ont mal employé. Mais en admettant qu'il y ait un évangéliste qui ait reçu de Dieu un don, une qualification, un ministère d'évangéliste, eh bien qu'il l'exerce dans l'Église, en accord avec l'Église, en union avec l'Église. Et alors, oui, il imposera les mains aux personnes nouvelles qui viendront, qui se présenteront, qui auront été touchées par l'Évangile, et il y aura des guérisons qui se feront. Mais les membres de l'Église, eux, qui existent déjà, n'ont pas à aller à cette source-là. Chers amis, c'est quelque chose de bouleversant de voir que aujourd'hui des membres de nos églises courent après un homme. C'est un tel d'un côté, un tel d'un autre. Alors, on dit d'eux, n'est-ce pas, ils guérissent, celui-là il guérit. Alors, on court après un homme. Mais c'est tout à fait étranger à la doctrine de Christ, tout à fait étranger à la révélation de Dieu. Et voulez-vous que je vous dise ce que m'a dit un pasteur de nos églises il n'y a pas longtemps? Il m'a dit, je suis allé, il y a pas mal d'années, à un grand rassemblement qui était fait comme ça par un homme, c'était Osborne, venu d'Amérique. Celui-là, nous savons, n'est-ce pas, comment il a dévié. Nous savons ce qu'il a fait, qu'il entraîne le peuple de Dieu vers la superstition, donnant des petits bouts de bois, des bouts de chiffon ou de papier, je ne sais quoi, n'est-ce pas, sur lesquels il faut prier. Eh bien, il y a quelques années, il était venu à Lyon, il avait dressé un podium sur une grande surface, et le pasteur dont je vous parle, que j'ai vu dernièrement, il y est allé deux fois. Et on avait annoncé, naturellement, mission de guérison divine. Et on avait annoncé avec tant d'éclat que des gens des malades avait été amené en ambulance, il l'a vu. Avait été amené en ambulance. Et le pasteur en cause, n'est-ce pas, se tenait là près du podium, et il voyait venir, n'est-ce pas, tous ces malades, des gens qu'on portait, comme les infirmes du temps de Christ, n'est-ce pas, et il les voit là, alors il priait dans son cœur, il disait, Seigneur, manifeste ta puissance, ta grandeur, ton amour envers ces pauvres gens, n'est-ce pas, autour du podium. Et l'évangéliste, quand le moment arriva de l'imposition des mains, il n'était pas trop sûr de lui, parce qu'il a dit, aujourd'hui, vont être guéris ceux qui sont sourds de l'oreille droite, seulement. Bon, alors, on a prié pour ceux qui étaient sourds de l'oreille droite. Et puis ces pauvres malades s'en sont retournés, on les a repris. Bon, le lendemain, on en a ramené encore beaucoup. Deuxième réunion. Alors, l'évangéliste de dire, nous allons prier pour ceux qui sont sourds de l'oreille gauche. Mais, chers amis, de qui se moque-t-on? Ce sont des choses qui ont été vues, prises sur le vif. De qui se moque-t-on, chers amis? Et vous, vous, membres de l'Église, souvent manquant de discernement et vraiment d'affermissement, vous courez, là, vous courez. Vous êtes appelés, vous y allez. Chers amis, non, le Seigneur veut vous guérir dans votre Église. Là où vous êtes, c'est là où vous êtes, et par le moyen de votre Église. Alors, si vous êtes malade, eh bien, laissez les frères et les sœurs prier pour vous ensemble, et que ce soit même l'occasion, votre maladie soit l'occasion encore d'une union plus resserrée entre les membres de l'Église. Que l'on prie les uns pour les autres, comme dit Jacques, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. C'est dans votre Église. Et chers amis, tout cela devra concourir à réaliser l'unité de l'esprit dans l'Église, à faire disparaître tout ce qui peut être cause d'inimitié ou de division, afin que la paix, l'unité règne dans votre Église locale. Là, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas la faire régner, vous, dans le corps de Christ tout entier, mais dans votre Église locale. Et tous prient pour les malades de l'Église, et que tous pensent qu'en allant rechercher au nom de Christ cette grâce auprès du Père Céleste, on dit aussi implicitement au Père Céleste, Seigneur, nous réalisons combien nous avons besoin d'être unis, combien nous avons besoin de t'obéir, combien nous avons besoin chacun de nous de purifier notre vie, de faire une expérience avec Christ qui soit toujours plus profonde, plus réelle, plus éclatante, de nous abandonner. Voilà le sens de la maladie, chers amis, et voilà comment on doit rechercher la maladie et non pas courir après l'un et après l'autre, surtout des gens, n'est-ce pas, qui s'autorisent d'eux-mêmes. Et non pas de l'Esprit de Dieu. Alors, tout cela est à savoir et à pratiquer. Et nous voyons ici, nous en avons fait depuis ces 11 ans, maintenant, la démonstration. Ici, vous êtes en serre chaude, un peu, n'est-ce pas? Vous êtes retiré de vos préoccupations habituelles, et vous avez un volume, au cours de nos retraites, un volume de prière en commun, de 2 heures par jour à peu près, n'est-ce pas? Vous avez 2 réunions en plus de méditation de la parole, nous ouvrons la parole de Dieu, et cela évidemment vous fait du bien, beaucoup l'expriment et le disent, n'est-ce pas? Et cela élève au milieu de nous ici, n'est-ce pas? Nous ne formons pas une église, nous formons une communauté transitoire, n'est-ce pas? Mais cela élève le niveau spirituel. Et quand le niveau spirituel s'élève, oui, la grâce de Dieu réapparaît. La grâce de Dieu. Nous en faisons la démonstration, mais cela doit se faire dans votre Église. Alors, évidemment, dans votre Église, vous ne pouvez pas être réunis tous les jours. C'est peut-être dommage. Hein. Mais cependant, n'est-ce pas, vivez dans un esprit d'union les uns avec les autres pour former un corps. Et c'est de ce corps que le Seigneur veut entendre monter vers lui l'intercession pour les malades, et il veut les guérir. Ce sera là la joie on peut dire, du Père Céleste que d'accorder, que d'exaucer les prières qui monteront d'un corps uni. Que cela soit pour la gloire de Christ. Amen.
Amen.